J'ai mes sources. Colombe Schneck.
Bonjour à tous. Tout l'art du discours politique consiste à utiliser un signe fort lorsqu'on veut frapper, mobiliser et lancer un signe vide ou atténué lorsqu'il faut gommer, faire oublier. C'est la clé proposée par les invités d'aujourd'hui pour décoter le langage utilisé hier soir par Nicolas Sarkozy dans l'émission de France 2 « À vous de juger ». En compagnie de Bruno Roger-Petit, je reçois donc les linguistes Louis-Jean Calvet et Jean Véronice, Combat pour l'Élysée, parole de prédentant et idée au seuil, c'est le titre de leur ouvrage. Alors pendant l'émission, n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires sur la page J'ai mes sources du site franceinter.com. Cette émission est préparée par Virginie Rouzic, Simon Bertin qui nous quitte aujourd'hui et réalisée par Adèle. Bonjour Emmanuel Charana, le chiffre du jour bien sûr aujourd'hui, c'est les chiffres d'audience de l'émission « À vous de juger » hier soir sur France 2.
Bonjour Colombe, eh bien, 5 100 000 téléspectateurs hier soir et 24% de part d'audience pour l'émission d'Arlette Chabot « À vous de juger » avec Nicolas Sarkozy, enfin candidat officiel. Et c'est 2 millions de plus que la moyenne des 6 autres émissions d'Arlette Chabot cette année, dont les thèmes étaient « En janvier, la France doit-elle avoir honte de son passé colonial ?»« En mars, CPE, comment sortir de la crise ?» Fin avril, les enjeux de l'élection présidentielle. En juin, les socialistes sont-ils prêts à gouverner? Et le 19 octobre, les faits indigènes et la discrimination. Et le 16 novembre, c'était le duel entre François Bayrou et Jean-Marie Le Pen. Alors, avant l'émission d'hier soir, ce fut d'ailleurs cette émission, celle avec François Bayrou et Jean-Marie Le Pen, suivie des résultats des primaires du PS, qui avait fait le plus d'audience, avec l'émission du CPE, 3,5 millions de téléspectateurs chacune en moyenne. La seconde partie de l'émission, celle consacrée aux résultats du PS, avait réuni plus de public, 3,8 millions, que la première, 3,3 millions. Toutes ces émissions ont tourné autour de 3 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 16%. Je vous rappelle que hier soir, c'était 24%, ce qui est un peu moins que la moyenne de la chaîne, 16%. La moyenne de la chaîne est à 19%. Mais c'est pas mal du tout pour une émission politique en prime time qui commence à 20h54, c'est précis, et qui dure en moyenne 2h42. C'est aussi un petit peu moins que Envoyé spécial, qui occupe d'habitude la case du jeudi soir sur France 2. Bon, sauf hier, Nicolas Sarkozy qui a fait beaucoup plus. En moyenne, les 29 soirées de Envoyé spécial ont recueilli 3 900 000 téléspectateurs et 18% de part d'audience. Bon, Envoyé spécial, c'est plutôt un magazine d'information et d'investigation sur des sujets assez variés et ça touche à un plus large public. En fait, la principale différence entre le public d'Envoyé spécial et celui d'Arlette Chabot, à vous de juger, est que le public d'Envoyé spécial est plus jeune. 20% de ces téléspectateurs ont moins de 35 ans, contre seulement 12% du côté d'Arlette. Et aussi, le profil d'audience d'Envoyé spécial est plus féminin, 57% de femmes versus 43% d'hommes, alors que celui d'Arlette est plus équilibré. Il correspond à peu près à la population française, 52% de femmes, 48% d'hommes, ce qui est pas mal pour une émission politique. Pour en revenir à Sarkozy, hier soir, il a permis à vous de juger, sur la 2, de ne pas se placer quatrième, comme d'habitude, derrière TF1, M6 et France 3. France 2 était hier soir, en début de soirée, troisième chaîne, derrière la femme d'honneur de TF1 et Malabar Princesse de France 3. Et vers 22h30, j'ai les courbes sous les yeux, les courbes d'audience, quand les deux fictions se sont terminées, il y a eu un fort zapping sur France 2, et à vous de juger, est passé en tête jusqu'à la fin, 23h45, et largement devant la méthode Coé.
Merci, Emmanuel Charana.
J'ai mes sources. Colombe Schneck.
Bonjour, Bruno Roger Petit. Alors, tous les deux,
bonjour,
on a regardé
Colombe.
À vous de juger hier soir. Ça, c'était long. Ça a été douloureux pour vous, Bruno?
C'était long. C'était long et je peux déjà vous dire qu'à la fin de l'émission, ça m'a rappelé mes fins de jeudi matin quand j'étais en seconde et que j'avais subi 2 heures d'allemand suivies de 2 heures de physique-chimie. Voilà, j'étais à peu près dans le même état. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Écoutez, Nicolas Sarkozy, moi j'ai l'impression que ce soit avant l'annonce de sa candidature ou après, finalement, c'est toujours pareil. Et comme vous m'avez demandé, Colombe, de m'intéresser aux trucs de rhétorique de Nicolas Sarkozy qui lui servent à convaincre le téléspectateur, auditeur, futur électeur, c'est ce que j'ai fait. Bon, ben voilà, c'est tout simple, ça s'appelle la proximité. Quel que soit le sujet, la sécurité par exemple, ou bien encore la sécurité, ou bien la sécurité, parfois aussi la sécurité, sans oublier un petit mot sur la sécurité s'il a le temps, Nicolas Sarkozy a toujours le petit cas pratique, le cas concret, qui lui permet de tirer une leçon générale, lui dictant la solution de bon sens qui s'impose. Alors exemple, une conductrice de bus se plaint d'être injuriée par des jeunes mal élevés, et hop, en quelques secondes, il annonce l'abolition à venir de l'ordonnance de 45 sur les mineurs délinquants. Une dame, c'est tragique, est assassinée à coups de bâton par un type ayant bénéficié d'une libération conditionnelle. Hop, il remet en cause la responsabilité des juges qu'il estime trop laxiste. Des vedettes appellent à voter contre lui, se mobilisent au nom de la citoyenneté. Hop, il évoque le cas de Joey Starr qui vient d'être condamné parce qu'il faisait payer ses contraventions par un homonyme. Les délocalisations, bah là aussi, il a la solution. Nicolas Sarkozy a justement visité une petite entreprise de Limoges et hop, il leur a soufflé les moyens de s'en sortir et depuis, ça va beaucoup mieux. Alors c'est une technique infaillible, puisque chaque exemple choisi par lui est lourd de symboles. On l'a vu hier dans l'émission. Que dire lorsqu'il justifie ses choix en se retranchant derrière des victimes de faits divers tragiques, par exemple ? Des policiers morts en service, une femme brûlée dans un bus, une victime de Guy Georges. Que dire ? Que répondre ? Et on a vu plusieurs fois ceux qui tentaient de s'opposer à lui rester silencieux ou avoir beaucoup de mal à trouver des réponses adéquates. Alors il faut dire aussi, ça c'est l'homme de télévision qui parle, qu'il est bien aidé par la formule d'une émission comme À vous de juger, confronté qu'il est à des Français ordinaires qui n'ont pas sa maîtrise de la communication et où les vraies questions posées par de vrais journalistes ne sont pas légion. Ainsi, il peut dans une émission comme celle-ci balancer des trucs énormes du style « je vais supprimer le CDI tel qu'il existe aujourd'hui »,« je vais instaurer un service minimum », »,« je vous annonce la fin du monopole syndical sur les élections professionnelles et les représentants en tant que salarié, et je vais instaurer un vote au bout de 8 jours de grève dans les entreprises en grève. Voilà. Et personne ne l'interroge sur les tenants et aboutissants de ces mesures qui sont juste des trucs qui remettent en cause l'héritage du général de Gaulle, le Conseil national de la résistance.
Il y avait une vraie journaliste sur le plateau, hein, Arlette Chabot, qui a sa carte de presse.
C'est vrai, mais alors j'allais vous parler des vrais journalistes sur le plateau et je vais vous dire hier, justement. Il m'arrive de critiquer Alain Duhamel. Eh bien, hier, j'ai été content de le voir parce que, au moins pendant quelques minutes, un vrai journaliste a posé de vraies questions à Nicolas Sarkozy en cherchant à pointer les contradictions, voir ce qui n'allait pas et chercher ce qui clochait dans son discours. Et je pense qu'il serait temps dans les émissions politiques à la télévision que les journalistes politiques recommencent à faire leur métier. Voilà.
Merci, Bruno Roger Petit.
Colin Schneck, sur France Inter.
Oui, je serai candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. C'est une décision qui m'engage. Je veux que les Français retrouvent confiance dans la parole politique et dans les hommes politiques.
Donc c'était hier soir, Nicolas Sarkozy à l'émission À vous de juger. Jean-Véronis, Louis-Jean Calvet, bonjour. Vous êtes linguiste,
bonjour.
Auteur de Combat pour l'Élysée, Parole de prétendant. Alors quel langage utilise Nicolas Sarkozy pour nous séduire, nous convaincre ? Ça, c'est ce qu'on appelle un signe fort ou un signe d'apaisement ?
D'abord, ce qui m'intéresse, on vient d'entendre là, c'est la façon dont il a apporté une information. J'étais très surpris par cette interview qui, paraît-il, était faite par les journalistes dans la presse.
Ah oui, ça c'est la veille, c'était hier.
Non, mais c'est pareil pour hier soir. Question, êtes-vous candidat ? Réponse, oui, je le suis. Bon, avec en écho, bien sûr, de Mitterrand qui avait répondu un petit oui timide il y a quelques années, comme vous savez. Mais s'il avait répondu non, ça aurait été une information. Si je vous demande quelle heure est-il, parce que je n'ai pas de montre, vous me donnez l'heure, c'est une information. Mais là, c'est le contraire d'une information. Je crois que Jacques Lang a dit c'est la 237e fois.
184e fois en 4 ans.
Bon, voilà. 4 ans. Tout le monde savait qu'il était candidat. Mais en plus, il a dérapé légèrement en disant « c'est pas par hasard si j'ai gagné le débat interne à l'UMP », comme s'il était déjà candidat, alors qu'il est candidat à la candidature. Et ceci dit, l'entrée en scène était extraordinaire. On l'a vu derrière Arlette Chabot, les jambes arquées. J'ai pensé un peu à Règlement de compte à Hockey Corral, un cow-boy qui est entré en scène. Et puis ensuite, il a commencé à penser à ce que lui disent ses conseillers. Surtout, ne t'énerve pas, surtout, ne sois pas agressif. Et il y avait une tension terrible.
Exactement. Qui se transmet aux téléspectateurs, d'ailleurs.
Absolument,
parce que
oui.
On vit pendant 3 heures sous tension. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette émission.
Parce qu'il devait se dire sans arrêt, surtout n'agresse personne.
Jean-Véronis, vous donnez cette clé apaisement ou signe fort. Là, c'était vraiment dans l'apaisement, la confiance, la gentillesse, la douceur, non ?
Oui, absolument. Mais il n'a plus de stratégie linguistique très claire. Et c'est ça qui est extrêmement étonnant. Mais moi, je dis, bon, j'ai une sorte de phrase choc, je dis qu'il s'est fait ségoléniser. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'arrive pas à comprendre que l'UMP, avec les moyens d'agences de communication, enfin, tout le monde dit dans la presse que c'est une véritable machine, des gens qui trouvent des mots, etc., donc qui vraiment planchent sur les mots. Comment est-ce qu'il n'avait pas anticipé que Ségolène... En plus, je crois qu'il a les RG à sa disposition. Comment il n'avait pas anticipé que Ségolène allait passer haut la main, être plébiscité, et que donc, ça allait lui changer totalement son discours. Parce que si vous réfléchissez bien, il a l'image du petit gars qui se bagarre avec tout le monde. Il va dans les barrières, il se dispute, il va avec les juges, il se dispute.
C'est ce que vous décrivez dans votre livre.
C'est exactement ce qu'on décrit dans le livre.
Un langage très fort.
un langage très fort, un langage musclé, un peu macho, bon, langage de droite évidemment, mais musclé. Et c'est sur ça qu'il s'est construit son image. Et c'est comme ça qu'il a monté à la force du poignet à l'intérieur de l'UMP, etc. Et c'est ça que veut entendre en lui une bonne partie de l'électorat, pas tout l'électorat, mais une partie de l'électorat, et de droite en particulier. Alors comment est-ce qu'il n'a pas pu anticiper que ça allait changer avec l'émergence de Ségolène Royal ? Moi, hier, j'ai trouvé que c'était un petit peu le petit garçon teigneux, hargneux, qui donne des coups de pied à tout le monde, qui a fait ça pendant des années dans les cours de récré. Et puis, d'un coup, sa mère lui fait une claque et puis il dit « Voilà, mon petit gars, là, il faut être tranquille. Hein, »
Sauf que sa
alors,
mère,
il est tranquille.
Sa mère, c'est Ségolène Royal.
Ah, ouais, c'est exactement ça, mon allusion. et il est ségolénisé. Il s'est pris une petite claque par sa mère là, et il cherche son nouveau discours. Il sait qu'il ne peut plus donner des coups de pied.
On va l'écouter d'ailleurs. Il dit « J'ai souffert. »
Il a souffert. Maman, c'est très psychanalytique.
Maman, j'ai eu un gros bobo. J'ai souffert.
Maman, bobo.
Si vous essayez de me faire dire que je suis un homme comme les autres, qui aime et qui souffre, qui a eu des problèmes et des difficultés, qui a dû affronter des épreuves, chacun le sait. Mais est-ce que vous croyez que dans le quotidien des Français, qui n'est pas toujours facile, ils attendent de moi que je vienne à la télévision pour leur dire « Écoutez, comme je suis sympathique, ou regardez toutes les difficultés que j'ai dû surmonter dans ma vie ?» Un peu de pudeur ne messied pas dans le débat public.
Il y a de la larme dans la voix, là.
Un peu de pudeur ne messied pas. C'est beau,
c'est très beau. C'est très
faut
beau.
Se souvenir quand même
on entend la voix qui tremble, quand
lorsqu'il
même.
Lorsqu'il a été élu à tête de l'UMP, son garçon, qui avait moins de 10 ans, est venu dire « Bonne chance, mon papa ».
Clôturer le sujet de couronnement.
Vous vous souvenez de ça, oui. Mais alors, pour revenir aux mots, Jean disait « Il est ségolénisé ». Vous vous souvenez quand même qu'il y a encore 2 ou 3 mois, et pendant un an, il avait 2 mots-clés, c'était « La rupture » d'abord, et « La France d'après ».
La rupture, aujourd'hui, c'est la rupture
alors maintenant, oui, mais il a prononcé qu'une seule fois hier. Alors que dans le temps, ses discours, c'était rupture, rupture. Et surtout, la France d'après, au point que dans notre livre, on se demande, avec un peu de malice, la France d'après qui ou la France d'après quoi Bon, et on a l'impression que là, il ne sait plus quel discours tenir. Il est en quête de discours, en quête de posture actuellement.
Oui, Jean-Véronique.
Sur la rupture, l'autre fois, quand vous m'aviez invité, il y a une quinzaine de jours, je crois, je parlais d'oxymore. Vous savez, c'est quand on mélange des mots qui sont contraires, comme les puissants, impuissants, on disait l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Bon, mais ça, c'en est un, c'est un oxymore. C'est la rupture tranquille, mais ça ne peut pas imaginer. Alors, ses conseillers en communication l'ont briefé. Ça, c'est absolument évident, parce que rupture, c'est le mot le plus anxiogène de la société française. On ne vit que des ruptures. La rupture conjugale, bon, il y a un petit côté psychanalytique. Là,
sur Sarkozy,
on l'a dit
rupture du contrat de travail.
Rupture de contrat de travail, c'est les deux trucs les plus importants. Puis si vous réfléchissez au reste de ce que véhicule comme connotation la rupture, c'est rupture de l'anévrisme, Chirac, etc. C'est la rupture des câbles de téléphérique. Enfin, vous imaginez, c'est que des trucs terriblement anxiogènes. Donc on lui a dit, on lui a fait remarquer. Donc au JT de PPDA jeudi dernier, il a pas du tout prononcé ce mot, pas une seule fois. Et dans la semaine, on lui a fait remarquer probablement, oui, mais alors tu ne le prononces plus, les journalistes vont trouver que là, tu te contredis. Donc on a trouvé un oxymore, rupture tranquille. Mais imaginez, ça ne marche pas, imaginez un petit peu votre rupture conjugale, mais tranquille, cool, on reste copains. La rupture
pas.
D'un névrisme, mais cool, tranquille, je ne suis pas paralysé. La rupture du câble du téléphérique, vous voyez, cool, mais ça tombe tranquillement dans la neige, cool, hein, ça ne se fait pas mal. Vous voyez, donc c'est totalement impossible. D'ailleurs, le mot n'a jamais été prononcé et il n'y a pas aucun thème de la rupture. Dans tout ce qu'il a dit.
Bruno Roger Petit.
Si je puis me permettre de tirer un enseignement politique de tout ce que j'entends, je vais prendre le thème de la sécurité. Voilà, vous dites qu'il a été ségolénisé. Mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui, et je pense que beaucoup de journalistes ou d'éditorialistes ne s'en rendent pas encore assez compte, mais je pense que Ségolène Royal, lorsqu'elle a lancé le débat, par exemple, sur les camps humanitaires pour primo-délinquants encadrés par des militaires, lui a coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire qu'elle peut le dire aujourd'hui, mais lui ne peut pas le dire. Imaginez qu'il dise la même chose, il se fera... Mais tout le monde lui tombera dessus. Et je pense que très intelligemment, Ségolène Royal est en train peu à peu de lui enlever tous ses thèmes, qu'il a beaucoup de mal à les retrouver. Et ça donnait cette émission d'hier où finalement, toute la partie sur la sécurité qui a quand même duré plus d'1h10, ça ne m'a rien appris. J'ai revu les mêmes trucs, j'ai revu les mêmes propositions. Vous voyez, c'était une fois de plus le show qui fonctionne sur l'instant. Puis après, vous vous dites, finalement, c'est comme avant.
Oui, Jean-Véronique.
Oui, je vais faire une remarque sur cette histoire-là de sécurité, etc. Louis-Jean a dit qu'il était très tendu au début, et effectivement, il était très tendu. Il a même, je crois, des cernes sous les yeux. Enfin, il était beaucoup moins brillant qu'au JT de PPDA la semaine dernière, donc il a dû avoir une semaine difficile avec son annonce café pchit. Bon, ça avait l'air d'être très compliqué.
Vous savez qu'il a été puni par Patrick Poivre d'Arvor cette semaine. Parce que lorsqu'il est. Excuse-moi de vous couper, je vous dis très vite, mais lorsqu'il a été interviewé par Patrick Poivre d'Arvor, il a mis en cause l'interview faite par Patrick Poivre d'Arvor quelques jours avant de Ségolène en disant si on on peut appeler ça une interview. Bah, ouais. Résultat des courses, son annonce de candidature était reléguée en milieu de JT du 20h il y a deux jours.
Il se fait beaucoup taper sur les doigts.
Voilà.
La presse
régionale J'ai vu une petite vengeance de PPDA.
On l'a beaucoup tapé sur les doigts du côté des journalistes. La presse régionale lui a tapé sur les doigts en faisant fuiter son interview sciemment. Donc là, je crois qu'il a eu quelques soucis. Donc ça se sentait. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 4 ou 5 thèmes. Hein, la sécurité, l'immigration. Il était très tendu. Il y a un moment où il n'a pas été tendu, et les images en disent autant que les mots, hein, ça marche ensemble, et où il a été un bon orateur, il s'est lâché, et là on avait effectivement l'image de quelqu'un qui pouvait être un président. C'est pendant le thème économie. Hein, ça a commencé avec le gars du Nouvel Obs, ils ont commencé à faire la plaisanterie, et là il a été très très détendu, la France qui doit avancer, je veux que tout soit possible, je vous dis tout pour que tout soit possible. Moi ça m'inquiète un peu, parce que quand tout est possible dans un pays, moi ça me rappelle certains pays du tiers-monde, mais enfin bon, je ne pense pas qu'il le disait dans ce sens. Donc là il a été très bon orateur, c'est le seul moment, et après il s'est refermé à nouveau, quand Cohen lui a posé quelques questions difficiles, il s'est refermé à nouveau sur l'éducation. Non, donc c'est curieux, mais ce n'est pas son image hein, l'économie, son image c'est la sécurité, et c'est sur ça qu'il était
moins bon. Je voudrais juste revenir sur Ségolène et prendre d'autres extrait de l'émission d'hier. Effectivement, il a toujours été très gentil avec Ségolène Royal. Il a revu la traité de l'adversaire, par exemple. Je voudrais qu'on l'écoute parler des propositions de Ségolène Royal.
On pourrait dire que c'est du populisme, même ?
Non, je n'aime pas ça, parce que ça ne serait pas respectueux à l'endroit de Mme Royal de dire cela. Je ne comprends pas, d'ailleurs, cette accusation populiste. Lorsqu'elle a proposé un jury populaire, je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Mais pourquoi la caricaturer en disant que c'est populiste ? Ça n'a pas de sens. Les responsables politiques ont le droit, je dirais même le devoir, d'avoir des idées différentes. Et je n'aime pas les tenants de cette pensée unique. Dès qu'il y a une idée différente, il faut la démolir en disant qu'elle est populiste. Non, chacun défend ses idées et je ne dirais pas cela.
Je ne dirais pas cela. C'est oui, gentil, c'est une nouvelle gentillesse.
Il est encore une fois piégé, puisque comme elle lui coupe l'herbe sous le pied... S'il la traite de populiste, il se traite lui-même de populiste, puisqu'elle lui a piqué ses thèmes. Mmh. Il paye, d'un certain point de vue, la facture de ce qu'il a fait jusqu'ici. Et à propos de facture, il a fait un lapsus extraordinaire hier. Mmh. Tout à l'heure, vous citiez son passage sur cette usine de porcelaine à Limoges. Hein, mmh. Et il a dit exactement, maintenant, cette usine fabrique des prothèses pour réparer les factures.
Ah oui,
alors
oui.
qu'il voulait dire, bien sûr, les fractures. Bon, c'est quand même étonnant, ce genre. J'aime beaucoup les lapsus des hommes politiques, il y en a beaucoup comme ça. Mais surtout, ce qui est...
Adieu, moi, Lionel Jospin.
Ouais. Les vieux de...
Nous te regretterons pour ça.
Et la démission du Conseil constitutionnel dans la bouche de M. de Villepin l'année dernière aussi. Jospin, dont vous parliez, il a passé 8 ou 9 mois dans la dénégation de la candidature. Hein. Je ne serai pas candidat, mais non, jusqu'au moment où il a voulu qu'on l'appelle pour l'être. Or, ce que fait Sarkozy depuis 4 ans, c'est qu'il est dans l'affirmation, au contraire de la candidature, il est dans la déclaration. Hein. Je déclare.
Ça me faisait penser un petit peu.
Déclare sur l'amour.
Un lycéen, on a tous fait ça au lycée, une fille qui elle vous repousse, etc. Puis vous faites des poèmes, vous faites des déclarations, vous en faites 150. Et puis, bon, mais voilà, on était un peu. Peut-être c'est la déclaration d'amour à la France qui lui fait pas confiance, on lui demande la confiance, etc. On était un peu.
Bruno Roger Petit.
Je reviens aussi un instant sur l'extrait que vous venez de passer parce qu'il est très intéressant. Le voilà obligé de dire du bien de celle qui est quand même son adversaire numéro un aujourd'hui dans la course à la présidentielle. Mais en termes politiques, c'est une erreur de communication majeure. Tous ceux qui ont suivi François Mitterrand en 80 ou en 88 vous diront que François Mitterrand passait son temps à se trouver des raisons de dire du mal de son adversaire, que ce soit Giscard en 81 ou Chirac en 88. Je me souviens même d'une interview de Richard Ars un jour d'un journaliste qui disait « Mais je voyais Mitterrand qui s'entraînait à haïr Giscard ». Or, on a l'impression aujourd'hui que Sarkozy s'est tellement entraîné à haïr Chirac, Villepin et quelques autres, d'une part, que d'autre part, comme vous le dites très bien, il est piégé par Ségolène, qu'il n'a pas assez de haine pour Ségolène. Il devrait au contraire lui taper dessus, c'est ça la politique. Aux États-Unis, ses communicants lui diraient, là tu as tout faux. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know this, cause I noticed you're smiling out of the sun, having fun and feeling free. And I can tell you know how hard this life can be, but you keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story? Was it overnight or did it
take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. My girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time.
Oh, see.
Barclay, Smiley Faces, et on décrypte l'émission de À vous de juger hier soir sur France 2 avec Louis-Jean Calvet, Jean-Véronis Linguiste et Bruno Roger Petit. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a presque eu un mea culpa de Nicolas Sarkozy à propos de ce qu'il avait dit sur le laxisme des juges à Bobigny.
Si je suis mal compris, c'est d'abord de ma faute. C'est moi qui m'exprime mal. J'ai dit que ce n'était pas la justice qui était laxiste. J'ai ciblé un tribunal et j'ai parlé d'un juge. Mais enfin, Monsieur le Président, Outreau ne peut pas rester sans réponse, quand même.
Louis-Jean, il y a presque un mea culpa au départ, ce qui est assez rare. Mais
ça
finit par une
barre. Ce qu'il dit après, il a tapé à bras raccourcis de nouveau sur le juge du tribunal de Bobigny, en fait. Donc, effectivement, vous ne m'avez pas compris, je n'attaque pas tout le monde, mais j'en attaque un. Et là, il est allé avoir un coup de poing.
Là, on a retrouvé le Sarkozy, c'est-à-dire le petit gars qui attaque tout le monde, qui se dispute avec tout le monde, qui crie caracaille, charcaille. Là, c'était le rare moment où ça lui a échappé. Probablement, ses conseillers en communication n'étaient pas très contents.
Ouais. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent, quelque chose qui est assez classique chez les hommes politiques, c'est le fait de dire je dis la vérité, les autres mentent, je dis ce que je pense. On n'a pas le droit de vous mentir, c'est revenu assez régulièrement. Si on prend un extrait, il y en a eu plein hier soir, on n'a pas le droit de vous mentir.
Non, Madame Chavot, si vous me permettez, je n'ai pas l'arrogance de dire que je dis la vérité. Je dis ce que je pense. C'est pas pour ça que c'est la vérité.
Votre vérité.
Ma vérité ou mon authenticité. Et je voudrais faire un véritable pacte avec les Français. Tout leur dire et tout ce que je dirais, je le ferai s'ils me font confiance.
S'ils me font confiance, ça vient très régulièrement. Hein. Oui. Je vous dis la vérité, les autres vous mentent. Jean-Véronis, Louis-Jean Calvet. Ouais.
Vous vous souvenez que Michel Rocard a laissé deux ou trois formules dans les politiques, dont le parler vrai.
Exact. Mais comme on dit dans le livre, moi j'appelle ça le paradoxe du menteur. Hein, parce que si quelqu'un vous dit, tout le monde dit des mensonges, et puis même moi avant, mais maintenant je vais vous dire la vérité, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cette fois encore il vous ment, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est insoluble. C'est comme Jean-François Copé qui a fait ce fameux livre, J'arrête de la langue de bois, mais on ne peut pas le croire.
Surtout Jean-François Copé.
Donc ils se mettent dans des situations impossibles.
Mais
moi ce qui m'a frappé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le mot pacte.
Ben, c'est ce que j'ai dit. Pacte,
tu allais dire ça. C'est le mot fétiche de Ségolène Royal, hein, comme confiance. D'ailleurs, comme confiance et respect, c'est le mot de Ségolène Royal. Mouvement, Ségolène Royal l'utilise et elle parle d'élan. On ne parle plus de rupture, on parle de protection. Il a prononcé ce mot plusieurs fois, il a insisté. Elle l'a amené sur son terrain. Ça, ce que je disais, c'est Ségolène, mais elle a commencé à faire ça alors qu'on ne l'a jamais vu venir. Hein. Alain Duhamel, dont on parlait, n'a pas mis dans son livre à l'automne dernier. C'est quand même
les prétendants.
Les prétendants, elle n'y était pas. Hein. Donc il ne la considérait pas, grand journaliste qu'il est, il ne la considérait pas comme possible. Elle a amené tout le monde sur son terrain, elle a explosé Fabius et Strauss-Kahn, comme on sait, et il est en train de faire pareil avec Sarkozy. Sarkozy n'utilise que ses mots-clés. Ses mots-clés à lui, il les a gommés.
Louis-Jean Calvet, vous êtes d'accord? C'est le vocabulaire de Ségolène Royal.
Il court après sémantiquement. Un exemple. tout récemment, Salvador Allende a dit « Je ne dirai plus la vie chère, le pouvoir d'achat, je dirai la vie chère ». Et qu'est-ce qu'il dit hier? Une phrase bizarre. « Je dis pouvoir d'achat parce que la vie chère, elle est d'autant plus chère qu'on n'a pas de pouvoir d'achat ». Bon, d'accord. Mais on a l'impression qu'on est au tennis ou au ping-pong et qu'il essaye de prendre la balle au bon le plus court possible. Mais c'est elle qui mène le jeu dans ce cas-là. Il reprend ses mots et il lui renvoie dans la figure en les tordant un peu, en les changeant.
Tu as vu l'ordre juste aussi. Ouais. Hein, il dit l'ordre juste. Bon, là aussi, il se met sur son terrain. C'est elle qui l'a tiré. C'est comme au judo. Hein. Elle est judoka, en fait. Donc, l'ordre juste. Et il lui sort. Oui, mais c'est juste l'ordre. Et c'est la phrase de Cambadélis qui critiquait Ségolène Royal au mois de juin. Donc,
strictement la même phrase. Hein,
elle l'amène sur son terrain, comme elle a amené ses adversaires socialistes sur son terrain.
Oui, ce qui est incroyable, c'est que dans votre livre Parole de prétendant, vous montrez que, contraire, Nicolas Sarkozy utilisait le vocabulaire de Jean-Marie Le Pen, par exemple.
Oui, mais c'était avant.
C'était avant. Donc,
avant se fasse ségoléniser.
Ouais,
et ce qui est, comme je disais au début, c'est incroyable que les conseillers en communication n'aient pas vu venir le vent et n'aient rien prévu. Et là, on sent qu'ils cherchent désespérément.
Il a un autre problème de syntaxe, celui-ci. On a l'impression qu'il mélange le singulier et le pluriel. Alors, on a noté dans le bouquin que très souvent, il parlait en « je », puis en « vous », puis en « nous ». Il y a une phrase extraordinaire à propos d'Ilan Halimi qui avait été tué par le gang des barbares, dans lequel il dit aux parents « je pense que c'est un crime raciste et les policiers le penseront aussi, les enquêteurs le penseront aussi puisque je les dirige. Hein, je, il, vous. » Et hier, il y a des phrases extraordinaires. « Celui qui pense que c'est jamais pour eux, ceux qui veulent faire venir sa famille... » Il y a un problème de singulier et de pluriel. C'est-à-dire que la grammaire de Sarkozy ne respecte pas l'ordre juste.
Et je voudrais qu'on revienne aussi sur la mise en scène de l'émission Bruno-Roger Petit. Un des rédacteurs en chef de cette émission, Gilles Bernstein, vient de l'équipe de Delarue, ça se discute.
Tout à fait.
Des très bons témoins choisis comme dans une émission de Jean-Luc Delarue.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'irruption de la société civile dans les émissions politiques. Ça a commencé dans les soirées électorales à la fin des années 80, où on se disait, mon Dieu, c'est toujours la même chose, ces hommes politiques qui viennent dire, je suis content d'avoir gagné, et ceux qui vous disent, je suis content d'avoir perdu, parce que la prochaine fois, je sens que je vais y arriver. Et là, on s'est dit, tiens, on va mettre des gens du genre du peuple, la société civile. Bon. Alors maintenant, c'est obligatoire dans toutes les émissions. Et alors justement, dans cette émission, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, Gilles Bernstein est l'un des co-rédacteurs en chef avec Nathalie Saint-Cricq de l'émission. Et Gilles Bernstein, pendant des années, était le patron de Ça se discute chez Delarue. Et c'est lui qui, d'après ce qu'on nous a dit, choisit ses témoins. Alors, l'utilisation de ces témoins, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, hier, quand je regardais cette émission, je voyais des gens... Je me disais, c'est bien, ça correspond exactement à la rhétorique qu'il va nous déployer derrière. Et puis, comme je le disais en ouverture d'émission dans la chronique, ce ne sont pas des gens, même s'ils sont en désaccord avec Sarkozy, qui sont armés pour l'affronter. Vous voyez, il y avait ce jeune homme qui nous racontait, ce jeune patron d'entreprise qui nous a raconté qu'il avait subi un contrôle des plus musclés par des policiers, où il s'était retrouvé avec avec un revolver sur la tempe, etc. Et Sarkozy, très astucieusement, lui dit « Écoute, attendez, vous avez porté plainte ?» L'autre dit « Oui, mais c'est une médiation, ça s'est enlisé. » « Non, non, on va reprendre le dossier et on va le faire. » Et le pauvre garçon en face, il s'est retrouvé encore une fois piégé. Parce que Sarkozy est dans une position d'autorité où seuls des journalistes dans une émission comme ça peuvent le déstabiliser, mais pas des gens venus de la société dite civile.
Louis-Jean Calvet ?
Oui, mais tout de même, tout à l'heure, je parlais d'Hockey Corral, de règlement de compte dans sa posture d'entrée. Ensuite, vous avez passé un extrait « J'ai souffert » comme tout le monde, c'est ça. Ça se termine par une chanson d'Alain Souchon, hein, « Allô maman Bobo », on a parlé de mère tout à l'heure. C'est tout à fait ça, « J'ai souffert, aimez-moi
».
Et donc, je vous fais ma déclaration.
Et aimez-moi comme on aime Ségolène.
Voilà.
C'est ça,
hein,
Jean-Véronique.
Vous avez remarqué qu'il y a un thème qui était complètement absent hier, c'était le thème de l'international.
Exactement.
Alors c'est très intéressant parce que le seul tacle qu'il a donné à Ségolène Royal, c'est au début, c'est oui, mais sur l'international, elle ne sera pas bonne, de Liban, la Palestine, tatatata. Et ça s'est arrêté là. Il n'y a plus rien eu sur l'international où il est apparemment mieux que Ségolène, d'après lui. Et il n'y a rien eu là-dessus. Et pendant ce temps, Ségolène Royal était au Liban dans une situation apparemment très dure, puisqu'on est à la limite du coup d'État avec le Hezbollah, si j'ai bien compris. Ouais. Et donc, le choc des images, là, le contraste est très intéressant.
Bruno,
et absolument rien sur ça.
Ça, c'est vrai qu'hier, j'ai été estomaqué de voir dans une émission de 3 heures où quelqu'un veut être président de la République, ne pas voir aborder quasiment...
Il n'y avait rien sur la politique étrangère. C'est une forme de lapsus, puisque vous le disiez...
Oui, mais les relations avec les États-Unis, la guerre...
Quand il répond à la question, quand il dit « merci de m'avoir invité », on sait que...
Il s'est invité.
J'imagine qu'on
a pas mis ce thème-là. Alors que lui-même dit, il avait déjà dit au journal de PPDA que c'est sur ce terrain-là qu'il se distingue dans son image de Ségolène Royal. Or, c'est le seul thème qu'il ne fait pas mettre à l'émission.
Merci à tous les trois. On fera la même chose avec Ségolène Royal. Merci à tous les trois et bon week-end.